Maintenant que je passe le pouvoir à un autre, je suis un peu libéré, heureux, content. Je vais respirer tranquillement.
On est très, très, très loin de ce qui se passe quand on fait un 49-3 en France.
Épisode numéro 4, la politique autrement.
This is a sign of unity for us.
C'est le symbole de l'unité.
Young people are
les jeunes sont notre force et les anciens sont notre esprit.
The elders are our mind.
Voyage en terre indigène.
Hello.
Une mémoire des hommes qui s'efface.
What's the name?
Anne.
Une série d'Anne Pastor. Inuits, Indiens, Pygmées, Aborigènes, ils sont près de 370 millions à vivre en Amérique, en Amazonie, en Afrique ou en Australie. Aujourd'hui menacés, ces peuples sont pourtant notre mémoire et les gardiens de savoirs ancestraux. Alors peut-être est-il temps de les écouter. Aujourd'hui, la politique autrement, direction Bornéo en Indonésie et le lac Titicaca au Pérou. Sur l'île de Bornéo, en Indonésie, les Penans vivent dans une société très égalitaire. L'autorité des anciens est toujours associée à un plus jeune. Et ce binôme est à la base d'un système politique où règne le consensus. Au Pérou, sur le lac Titicaca, à plus de 4000 mètres d'altitude, les Indiens de Taquile pratiquent, eux, une démocratie locale participative très ancienne. Les autorités sont désignées par les habitants une fois par an, irrévocables à tout moment. Deux peuples, deux continents et un même voyage au cœur d'autres modèles politiques.
Vous êtes en terre indigène sur France Inter. Au Pérou, chez les Indiens de l'île de Taquile.
On pourrait dire, si on voulait essayer de transposer, que c'est un petit peu comme les conseils municipaux en France, où il y a des conseillers municipaux, simples conseillers, des maires adjoints, un maire, voilà. C'est une sacrée leçon de démocratie aussi, puisque une fois élu, vous ne pouvez pas comme ça, en conseil, prendre des décisions que vous allez imposer au peuple. Ça ne se passe pas comme ça à Taquile. Non, non. Une fois élu, vous allez convoquer le peuple le dimanche. C'est l'agora. Tout le monde se retrouve sur cette place de village. Et là, les autorités discutent avec le peuple des décisions qu'il faudrait prendre, qu'elles suggèrent de prendre. Et là s'entame une discussion qui peut durer effectivement toute la journée. Et il va falloir l'assentiment du peuple réuni et souverain dans ses décisions. Et pas question vraiment pour un élu de faire autrement. Il serait révoqué immédiatement.
Je m'appelle Evasio Momachaka Wata. Donc je suis le président de cette petite communauté. On est 120 familles qui habitent dans ce petit village. Je suis resté ici, c'est toute l'année que je suis resté parce que je suis obligé de rester sur l'île parce que je suis président. Donc c'est une tradition que je suis obligé de faire, même si je ne voulais pas parce qu'il y a beaucoup de choses à faire à l'extérieur, de travailler, parce que quand on est président, et on ne gagne pas d'argent. Alors donc c'est gratuitement qu'on travaille toute l'année et on est obligé de faire ça. Tous les dimanches, ils vont à la place. Il y a des réunions et des autorités et tout ça. Donc à partir de midi, toutes les autorités ils rentrent à la place. Il y a une petite obligation, mais c'est comme ça. Mais elle dit qu'on respecte la tradition.
Sur l'île de Taquile, aujourd'hui, c'est un grand jour parce que c'est un jour d'élection générale.
C'est plus une vague pour nous, c'est important.
Aujourd'hui, c'est juste les élections. On va à la place pour voter. Et après, à partir de demain, il est libre. Donc, il peut faire des autres activités. Il peut voyager, il peut sortir.
Est-ce que vous voulez vous représenter?
Il hésite. Hein
moyen, moyen.
Non. Moyen, moyen.
Pourquoi? Parce que c'est trop d'obligations?
Si.
Merci.
Les Indiens de Taquilé sont des Quechua et leur culture est antérieure à celle des Incas. Ils sont aujourd'hui 2000 à vivre sur cette île, perchée à 4000 mètres d'altitude, au milieu du lac Titicaca. Jusque dans les années 50, cet isolement les a protégés et ils ont pu ainsi conserver un système politique hérité du collectivisme autoritaire des Incas. Aujourd'hui, c'est jour d'élection. Et la population se retrouve sur la place centrale. Devant l'église, le conseil se présente pour la dernière fois aux femmes drapées de leur châle noir et aux hommes coiffés d'un bonnet à pompons. Chaque autorité, associée de son épouse, dresse le bilan de son mandat avant de laisser place au vote.
Ce monsieur là-bas a commencé le décompte du vote à main levée. Je vais voter à mon tour. Les femmes assises devant sont les épouses des autorités qui votent. Tu as vu, elles lèvent le doigt. Tous les autres, comme moi, sommes assis sur les côtés. Tous ceux qui sont présents doivent voter. Quand certains veulent vraiment être élus, il arrive parfois qu'ils viennent avec toute leur famille et leurs amis. Et alors ils gagnent. Les candidats ont été désignés par les autorités. À présent, c'est la population qui vote, qui décide qui sera finalement élu. C'est important, car il veille sur notre bien-être, sur notre mode de vie, ce qui nous aide à aller de l'avant, car un jour, nous aussi, nous serons élus.
Alors vous qui avez beaucoup voyagé, qu'est-ce que vous pensez de ce système ?
Je pense que nous sommes habitués à ce système traditionnel. Pour d'autres instances politiques, comme les élections municipales, cela se passe différemment. Le jury national des élections du Pérou vient alors organiser un vote à bulletin secret. Mais ici, on sait qui vote pour qui et qui s'abstient. Notre mode de gouvernement est très ancien. Ce sont des pratiques qui nous viennent de nos ancêtres. Le Warayo, par exemple, est une autorité ancestrale. Et nous le respectons beaucoup, beaucoup plus que le maire à proprement parler. Nous lui devons le respect et l'obéissance. Ici, à Taquilé, nous serons tous des autorités, un jour ou l'autre. Tous, qu'on le veuille ou pas. Et il ne s'agira pas d'être une autorité du dimanche. Certains vont arriver sans argent, sans rien, pour gouverner pendant un an. On ne gagne rien ici. Il faut servir la communauté plutôt que se servir de la communauté.
Je m'appelle Patrick Barre, je suis photographe et je suis écrivain. Ah, je me souviens très très bien de ma première rencontre avec l'île de Taquilé et ses habitants. On est sur ce lac Titicaca absolument immense. L'île émerge petit à petit. Et on est dans un paysage absolument magnifique, on a l'impression d'être en Crète, sauf qu'on est aussi à peu près à la hauteur du Mont Blanc. C'est ça qui est le plus étrange comme sentiment. Et je me souviens de cet abordage au port de Taquilé, de l'accueil par les autorités. Et on arrive au village principal de Taquilé, et là, eh bien, les autorités vous assignent un lieu, une maison, une famille, un foyer, et donc ce sont elles qui décident où vous allez séjourner. Taquilé, c'est un régime extrêmement particulier, une forme de démocratie très ancienne qui ne repose pas sur la victoire de la majorité sur une minorité, mais qui repose sur l'obtention d'un consensus. Et donc il y a une conception du fonctionnement politique à Taquilé qu'on va retrouver dans beaucoup de communautés chez les peuples premiers, mais qui là vraiment est portée à son paroxysme. Quelques exemples. vous ne pouvez pas vous présenter à des élections. Vous êtes désigné au cours d'une élection. D'abord, vous n'êtes pas élu seul, c'est un couple, parce que au nom de la dualité andine, principe masculin, principe féminin, tant que les deux principes ne sont pas réunis, le monde n'est pas complet. Donc on élit toujours un binôme, homme-femme, ensemble. Une fois élu, c'est une charge. Ce sont souvent les familles les plus prospères qui sont désignées, et elles sortiront de leur mandat électif plus pauvres qu'elles n'étaient en y entrant. Et c'est une façon un peu de remettre les pendules à l'heure en termes d'égalitarisme.
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... 19, 20, 21,
22, vous êtes élu pour une fois, ça dure un an, et puis c'est fini. Vous n'avez pas le droit de faire campagne, vous n'avez pas le droit de vous représenter. Simplement, si vous avez donné satisfaction, alors un an, deux ans, trois ans, quatre ans plus tard, vous serez probablement à nouveau désigné, élu au cours d'une élection, et à une fonction assez probablement supérieure. Et vous pourrez peut-être monter un petit peu tous les échelons de la hiérarchie politique taquilénienne jusqu'à la plus haute fonction que vous exercerez de la même façon pendant un an non renouvelable. Mais il y a toujours cette dimension finalement où il y a une sorte de méfiance instinctive du pouvoir qui moi m'amuse beaucoup, parce que on va jamais confier le poste le plus important à la personne qui a le plus grand charisme.
62 voix pour Vassiano. Il a gagné. Et apparemment, Vassiano, le premier candidat, a gagné.
Ouh là, alors là, c'est pour votre communauté, vous n'êtes pas d'accord par ceux qui sont désignés.
Je suis pour Dionisio, le deuxième candidat.
Voilà, il y a des gens qui font nom de la tête, vous n'allez pas voter, vous fermez même les yeux. On ne vote pas, nous.
Oh.
150 et quelques, notre candidat a perdu. Ce sera pour la prochaine fois.
La proclamation des résultats.
Domingo Cruz Quispe con 161 votos. Fuertes palmas. Y por último, para campo.
Vous êtes Inter Indigène sur France Inter.
Con 162 votos. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias, señores autoridades.
À présent, le président de la communauté déclare : nous avons choisi les nouvelles autorités. Ils savent à présent qu'ils sont élus et ils devront l'assumer.
Voilà, et alors on rentre dans la mairie avec le président et on arrive ici à la cour de justice. Et puis là, il y a Francesco, qui est le magistrat qui s'occupe de toute la justice et qui va remplir le registre avec le nom des nouveaux élus.
En tant que magistrat, j'ai vu que tout s'est fait de manière légale, correctement. Et jusqu'à maintenant, tout va bien. Moi, je suis Francesco, j'ai 80 ans, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai été élu. Parce que j'ai de l'expérience et que j'ai travaillé pour l'ONU.
Je suis le gouverneur de Taquile. Je m'appelle Marcos Machaca Yucra. Je suis très fier, très heureux d'occuper cette fonction, car ça n'est pas donné à tout le monde. La communauté nous désigne en fonction de notre bonne conduite et de nos capacités de leadership. J'ai pris mes fonctions en novembre de l'année dernière et je suis appelé à gouverner jusqu'en novembre prochain. Nous œuvrons dans l'intérêt de la population. Une autorité ne peut pas dire « je suis autorité, je commande », non. Il doit porter la voix de la communauté. Nous ne faisons pas de politique. Il en a toujours été ainsi et nous voulons garder cette ligne, ne pas entrer dans le jeu de la politique. Si on introduisait la politique à Taquile, ça corromprait tout. En politique, on aspire à être élu, on entre en campagne, etc. Mais ici, ces choses-là n'existent pas.
Tous les ans, le peuple de Taquile est appelé à choisir 22 nouvelles autorités. Certaines seront gardiens de l'île, d'autres responsables des champs, de l'école ou encore de l'artisanat. Et personne ne peut s'y soustraire. Non rémunéré, le nouvel élu occupe son poste à temps plein et il n'est pas autorisé à travailler pour lui. peine les résultats proclamés, chaque ancienne autorité va chercher son remplaçant. À la tombée de la nuit, éclairé d'une simple lampe torche, c'est un véritable jeu de piste de retrouver les nouveaux élus qui ne sont pas toujours au courant de leur élection. Ça y est, il vient d'ouvrir et on lui annonce qu'il vient d'être élu. Voilà, on rentre dans la cour de cette maison. Il n'a pas l'air content d'être élu, alors l'ancienne autorité lui dit « Mais écoute, de toute façon, tu dois le faire. »
Ils doivent insister. Le nouvel élu est un peu contrarié. Il dit « Pourquoi moi ?» Les années précédentes, j'étais prêt, mais maintenant que c'est mon tour, je suis gêné. L'autre lui dit « Mais c'est le moment, c'est ainsi. » Quand c'est tombé sur moi, je ne m'y attendais pas non plus. J'étais comme toi. On m'a désigné. Qu'est-ce que je pouvais y faire? Sans rien dire, j'ai assumé mon mandat. Alors je t'en prie, tu ne peux pas refuser. Ça va passer très vite, c'est juste pour un an. Moi, nous tous, nous allons assister à votre fête. Nous serons toujours ensemble. Désormais, nous allons nous voir constamment. Moi, j'ai appris, toi tu apprendras aussi. Alors s'il te plaît, sois patient.
C'est incroyable parce qu'en fait, il est en train de les convaincre. Alors il n'arrête pas de leur servir des feuilles de coca et il leur dit « Mais si, vas-y, je t'en prie, je t'en supplie. »
Nous sommes voisins, nous allons vous aider. Oui, je t'en prie. Et sa femme, elle dit, je n'étais pas en forme, elle venait d'avoir un enfant, mais quand cette fonction est tombée sur elle, elle l'a acceptée. Il explique que parfois, il faut dire non, parfois il faut savoir dire oui. Il faut recevoir cette charge avec beaucoup de respect et de tout cœur. L'année passe très vite.
Voilà, alors il s'est assis sur le lit, il a sa tenue noire d'autorité, son chapeau noir, est accompagné de sa femme et il est en train de parlementer et de discuter. Et ça peut prendre des heures et finalement la nouvelle autorité acceptera son poste puisque de toute façon c'est obligatoire.
Ça y est, le nouvel élu accepte. Il dit qu'il ne se défilera pas. Je suis ici chez moi. Bien sûr, dans un premier temps, j'ai dit non. Pourquoi devrait-il en être ainsi? Mais que voulez-vous? C'est notre tour à présent. L'actuel dignitaire dit « Le temps passe très vite. Nous sommes plus jeunes que vous et pourtant nous avons été élus. Que pouvons-nous y faire ?» Ça y est, il a accepté la fonction.
Ça y est, il a retrouvé le sourire et il est parti se changer. Alors, vous étiez... l'autorité, vous êtes venu jusqu'ici annoncer à votre remplaçant qu'il était élu pour un an. Aujourd'hui, c'est un jour important.
Oui, très important. Je me dis, c'est le dernier jour où je serai là, avec mes fonctions en main. Je suis ravi, heureux en ce dernier jour.
Est-ce que c'est un peu une libération ?
Oui.
Oui.
Être élu représente une grande responsabilité. Maintenant que je passe le pouvoir à un autre, je suis un peu libéré, heureux, content. Je vais respirer tranquillement.
Les autorités portent un costume particulier, il y a le gilet noir, il y a le chapeau noir, il y a la chemise en laine blanche, il y a le pantalon noir, il y a beaucoup de solennité dans le costume des autorités taquiléniennes. Tout le monde se déplace évidemment à pied à Taquilé. Et je me déplaçais beaucoup avec ce Polaroid qui m'a laissé une grande nostalgie parce que c'était formidable de pouvoir offrir des photographies à quelqu'un. Et puis, finalement, donc j'ai discuté un moment avec Vicente. J'ai fait un portrait de lui avec mon Polaroid. Je lui ai offert le portrait. On le voit qui pose et qui montre lui-même une photographie en costume le jour de son élection avec sa femme, puisque encore une fois on élit un binôme. Et Vicente n'avait plus que 2 mois d'exercice en tant qu'autorité élue. Et alors lui, il n'a pas du tout pleuré quand il a été élu. Il a été, ça faisait sa fierté, son immense fierté. Et il avait qu'un regret. Il me dit, ah, c'est terrible parce que on peut pas faire campagne. On n'a pas le droit de se représenter. Moi, j'aimerais faire campagne. J'aimerais me représenter. J'aimerais faire un an de plus. Mais le peuple ne veut pas. Et j'ai adoré cette phrase absolument magnifique. Le peuple ne veut pas. El pueblo no quiere.
Vous êtes un terre indigène sur France Inter. Au Pérou, chez les Andiens de l'île de Taquilé.
Quand tout le monde sera là, les nouvelles autorités vont arriver avec leurs nouveaux habits. Les anciennes autorités vont sortir en criant « Je suis libre » ou « Je me sens léger ». C'est une tradition et ils vont applaudir à nouveau.
Et tous, ils rentrent un par un pour la passation de pouvoir. On passe de nouveau une ancienne autorité qui a été chercher son successeur. Et ils attendent devant la porte du président. Les femmes sont derrière. La nouvelle autorité échange la coca, on le bénit de coca.
Il dit,
même si tu le nies, toute la communauté t'a choisi. Tu as obtenu 103 voix en tout.
L'ancienne autorité s'avance et dit, je vous remercie et je vais donc passer mon autorité. Il retire son chapeau et il lui passe sur la tête.
Le remplaçant est en train de prêter serment.
C'est un moment d'une grande émotion. Juan nous montre son cœur qui bat.
C'est une expérience vraiment unique d'assumer une telle charge. Diriger la communauté, être le chef, ici, c'est comme être un père. Maintenant, le poncho, c'est un attribut qu'ils doivent porter. Il représente leur communauté. Et lors des événements publics ou festifs, ils devront toujours le revêtir. Là, il lui apprend à tenir le bâton.
Tu vois, tu le tiens bien droit, les mains devant, et tu serres ton poncho. Il y a sa femme qui est derrière, et qui a un grand sourire. Le bâton du pouvoir, qu'il sortira tous les dimanches.
Le dimanche, c'est l'agora. C'est la place publique de la démocratie, c'est-à-dire c'est le jour où, effectivement, les autorités convoquent le peuple. Et d'ailleurs, je ne sais pas très bien qui convoque qui, du peuple ou des autorités, pour vous dire la vérité. Mais en tout cas, tout le monde se retrouve sur cette place de village. Et là, les autorités discutent avec le peuple des décisions qu'il faudrait prendre. Et là s'entame une discussion qui peut durer effectivement toute la journée. Et il va falloir l'assentiment du peuple réuni. Quand je les ai vus débattre, je me suis dit, oh là 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 là. Et là, on commence à se poser des questions sur l'exercice de cette forme de démocratie. On se dit, ouais, mais bon, une assemblée où on va débattre à 3000 personnes, déjà, ça va être long, ça va être compliqué. Et puis, on voit les choses se développer, on voit les gens lever les mains, on voit les gens prendre la parole. Toutes les paroles ont le même poids. On voit les autres écouter avec cet immense respect. Et puis, on se dit, ok, ça prend du temps, mais au bout du compte, Une fois que le consensus est obtenu, les autorités élues vont mettre en place l'application de ces décisions. On est dans un véritable exercice de la démocratie. C'est long, c'est complexe, mais en même temps, on est par exemple très loin, très 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 loin de ce qui se passe quand on fait un 49-3 en France.
Dimanche, nous présenterons pour la première fois les nouvelles autorités sur la place publique. Et après, je serai enfin libre. J'étais très inquiet au sujet de mon remplaçant, mais maintenant je suis rassuré. Je suis content, j'ai accompli mon devoir envers Takile.
Pour certains, c'est une libération et pour d'autres, c'est une tristesse.
Nos sentiments sont confus, car nous avons partagé beaucoup avec la communauté cette année et nous sommes tristes de ces derniers jours en tant qu'autorité. J'ai presque envie de pleurer.
Je m'appelle Paola. Je me sens vraiment heureuse d'avoir rempli mon rôle en tant que femme d'autorité. Je m'en souviendrai toujours, tellement de gens m'ont aidée. La famille m'a soutenue. C'était très fort pour moi, tous ces gens présents autour de moi. J'ai veillé sur ma communauté et j'ai senti qu'ils en faisaient de même pour moi. Maintenant, j'ai rendu mon serment, c'est-à-dire que j'ai quitté la fonction. Je l'ai porté avec toute mon affection. C'était des sentiments forts et profonds. Et ça me fait mal parce que je m'y étais habituée.
Il y a les larmes aux yeux de...
Je suis tellement émue. Ce que j'ai dit, tout le monde va l'entendre à la radio. Je ne l'aurais jamais cru. Merci. Dieu m'a aidé. Merci.
On dit toujours que cette forme de démocratie, elle peut fonctionner que dans des cercles où il y a peu de monde, où il n'y a pas beaucoup d'habitants, et que donc oui, ça marche à Takile parce que ils sont 2000 ou 3000 et que sinon ailleurs ça marcherait pas. Sauf que j'ai vu beaucoup de fonctionnements politiques très démocratiques dans beaucoup de communautés autochtones que j'ai visitées en Amérique latine. Et si on fait le total, on arrive à 50 millions de personnes qui fonctionnent de cette manière-là. C'est considérable. Donc effectivement, c'est possible. Ça nous dit quelque chose sur la démocratie participative. Peut-être que ça peut fonctionner comme ça à l'échelle d'un immeuble, à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'un pâté de maison. Et ça remonte, et ça remonte, et ça remonte.
Monsieur le Président, les élections se sont bien passées.
Oui, très bien. On a fini, il n'y a eu aucun problème. C'est notre devoir en tant qu'autorité de respecter les décisions de la communauté. C'est la population qui nous donne le pouvoir, afin qu'on puisse veiller et protéger l'île de Takile et le modèle politique ancestral de nos arrière-grands-parents. C'est une des raisons pour laquelle l'île de Takile est mondialement connue.
Et le dimanche suivant, pour la première fois, les nouvelles autorités se présenteront officiellement aux habitants de Takile sur la place du village. Les longs débats reprendront, comme cela se passe depuis près de 1000 ans, une démocratie directe et participative, symbole de l'unité de cette communauté. À 20 000 km de là, en Malaisie, sur un terrain de foot, deux équipes s'affrontent en ce dimanche après-midi. Sur l'île de Bornéo, les jeunes jouent contre les anciens de Long Lamaï, un village penant perdu dans la forêt. La tradition contre la modernité. Un match qui symbolise tout le système politique des Penans, car ici, l'unité repose sur la transmission du savoir et du pouvoir.
Oui, c'est le symbole de l'unité. Les jeunes assistent les anciens dans tout ce que l'on fait. Les jeunes sont notre force. Et les anciens sont notre esprit.
I can't use it anymore. getting dark, much too dark to see. Feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Mama wiped this blood from my face. I'm sick and tired of the war. Don't know if it's night or if it's the sun rising high. Scared I'm knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Along Lamai is the first Penan village.
Long Lamai est le premier village Penan qui a été créé lorsque nous avons abandonné la vie nomade il y a environ 50 ans. Même si nous sommes devenus agriculteurs, nous dépendons encore énormément de la forêt pour notre nourriture. Ce que vous voyez à Long Lamai autour des maisons, ce sont des arbres qui viennent de cette forêt. Regardez celui-là. Il vient de la jungle très très profonde, et s'il porte des fruits, alors on sait qu'il y en a aussi dans la jungle. C'est pour ça qu'on le garde aussi ici.
Et en même temps, ce qui est assez incroyable dans ce village, c'est que devant chaque maison, il y a une parabole et il y a des fils électriques.
C'est le mélange du nomadisme et du modernisme.
Vous êtes en terre indigène, sur France Inter.
Voilà les gens qui arrivent de la ferme. La femme qui suit derrière avec son magnifique chapeau.
Ça, c'est sa sarbacane.
That is the poison darts. Ouais.
Mais vous l'emmenez toujours avec vous?
Oui, tout le temps. L'homme doit avoir sa sarbacane pour se protéger ou protéger les autres. Ça, c'est l'antenne pour le mobile.
Au cœur de la jungle de Bornéo, une antenne relais pour le téléphone mobile.
À Malaisie, chez les Penan de Bornéo.
Maintenant, on va au centre communautaire à l'Assemblée. Cet après-midi, les anciens ont leur réunion pour prévoir les tâches de la semaine prochaine. Montons à l'étage pour attendre.
Long Lamai est un village unique au Sarawak. Il est le premier village sédentaire des Penans.
En 1957, sous l'impulsion des missionnaires, ces anciens nomades se sont installés ici, le long de la rivière, au cœur de la jungle de Bornéo. Le gouvernement a offert une maison à chacune des 100 familles, l'électricité, l'école, un hôpital, une crèche et même Internet. Mais les Penons ont refusé la construction de la route et ont conservé un système politique original entre tradition et modernité. Même si le chef de village est nommé par le gouvernement, le vrai pouvoir se trouve au centre communautaire où les anciens et les jeunes discutent, échangent et décident de l'avenir du village.
Ici, à Langlamaï, le principe de notre gouvernement repose sur l'idée que ce sont obligatoirement des anciens qui dirigent les activités. Par exemple, si vous prenez l'association des parents professeurs, c'est un ancien qui dirige. Et lorsque celui-ci aura atteint 60 ans, son assistant deviendra président de l'association et prendra à son tour un plus jeune pour l'assister. C'est comme ça que nous fonctionnons à Langlamaï parce que nous pensons que les gens ont la sagesse entre 60 et 70 ans. C'est le moment où ils ont les meilleures idées, la meilleure vision pour développer le village.
Peut-être que vous pouvez me présenter tous ces gens qui sont là. Alors on commence par le plus jeune, qui a d'ailleurs la coiffe traditionnelle.
Il fait partie de la nouvelle génération que l'on convie à ces réunions pour qu'ils apprennent et qu'ils puissent devenir à leur tour les décideurs de demain. Lui, par exemple, c'est un de nos artistes parce qu'il est capable de transformer tout ce que l'on dit en dessin et cela permet aux gens de comprendre plus facilement parfois.
À côté, donc aussi, un représentant d'une certaine jeunesse.
Oui, il est considéré comme l'un de nos prochains leaders. Il est dans le groupe des jeunes qui vont nous remplacer à l'avenir. Cette année, il a été élu pour être mon assistant. Il travaille avec moi et il apprend.
C'est une grande responsabilité que d'être un futur leader.
Je dois apprendre des anciens, je vais être le prochain leader et ma responsabilité vis-à-vis de notre communauté est grande. En tant que jeune, il faut que j'apprenne d'eux, que j'ai des idées et une vision pour les remplacer un jour. Aujourd'hui, je dois faire mes preuves.
Voilà, alors vous faites partie des anciens et c'est vous qui transmettez votre savoir.
C'est une tâche difficile, mais c'est ce qui est le plus important. Ainsi, ils apprennent la véritable culture, nos origines, la forêt, mais aussi nos coutumes.
Le tout à l'heure d'Internet, Facebook et du site de Langlamaï.
Nous, les anciens, nous connaissons nos racines et notre passé grâce à la culture orale. Mais les jeunes, eux, sont plus intéressés par les technologies, les téléphones portables ou Internet. Alors nous leur avons demandé d'utiliser ces technologies afin que cela puisse bénéficier à la communauté.
C'est un système original qui est basé justement donc sur la société égalitaire. C'est un mélange entre la tradition et la modernité. Et c'est la question que les gens de Langlamaï se posent presque quotidiennement. C'est comment allons-nous faire pour que notre tradition soit compatible avec nos modes de vie qui sont en train d'évoluer.
Laki Siman, chargé de mission à la fondation BMF.
Et c'est une crainte et en même temps finalement un espoir pour eux, c'est de chercher les méthodes et les pratiques qui leur permettront de trouver l'équilibre entre tradition et modernité, d'où finalement ce système politique. Tout le monde a le droit de donner son opinion, autant les femmes que les enfants, que les anciens. Et je crois que c'est finalement une société qui cherche à éviter la hiérarchie. Donc ils essaient le plus possible de faire en sorte que chacun ait encore le droit de s'affirmer, le droit de poser des questions. D'ailleurs, on confond souvent le concept du headman, du chef de village. Quand on interprète ça dans notre culture à nous, occidentale, le chef de village est la personne qui donne des ordres, qui prend des décisions. C'est une mauvaise traduction du terme de Pengulu, ça se rapproche beaucoup plus d'un médiateur qui doit créer le consensus. C'est ça le but politique des Penans, c'est de ne pas imposer, mais de créer un consensus autour de chaque décision.
Vous êtes Inter Indigène sur France Inter.
Je m'appelle Wilson Biyanbelare. Je suis le chef du village de Long Lamaï.
Vous êtes un chef de village nommé par le gouvernement, mais le fait que vous soyez de Long Lamaï, ça change beaucoup de choses.
Si le gouvernement a un projet qu'il souhaite réaliser ici, je dois demander l'avis de la communauté. Est-ce qu'elle l'accepte ou non? Si le village refuse un projet, et je transmets la voix du village au gouvernement. Même si je suis le chef de village, je ne peux pas être seul à avoir tout le pouvoir entre mes mains. Je décide, mais de façon démocratique, en demandant aux 600 personnes de Long Lamaï leur avis. Je fais tout mon possible pour garder ma communauté en harmonie. C'est un des enseignements les plus importants de la culture Penang. Le proverbe dont je m'inspire, c'est « si tu veux aller plus loin, il faut y aller ensemble ».
Ce qui témoigne d'ailleurs ici d'une grande maturité politique. Les gens, les habitants du village ont beaucoup de connaissances en matière de décision.
La forme de gouvernement que nous avons ici, à Long Lamaï, est liée à la transmission des anciens aux plus jeunes à travers des histoires orales et des discussions de groupe. Le meilleur moment, c'est par exemple lors de réunions ou de dîners à la tombée de la nuit. L'atmosphère est bonne et ainsi les enfants écoutent. Aujourd'hui, nous sommes à un moment crucial de la vie de notre communauté parce que les jeunes connaissent la technologie, ils ont accès au savoir par Internet. Il faut encore plus leur rappeler leurs origines, leur culture. Je pense même que les nouvelles technologies peuvent aller de pair avec la conservation de la tradition. Lorsqu'on combine notre ancien mode de vie et les technologies, tout est plus efficace, et c'est ce qu'on essaye de faire à Long Lamaï.
C'est ainsi que Louboun, un jeune Penan âgé de 42 ans, a été envoyé par les anciens du village pour cartographier le territoire. Ce travail a débuté en 2005 grâce au soutien d'une ONG suisse, la Fondation BMF. Depuis, grâce à ces cartes, la communauté a porté plainte contre le gouvernement et une compagnie forestière pour faire valoir ses droits. Ce matin-là, équipé de son GPS et de sa sarbacane, Louboun est parti à 4 heures de marche du village de Long Lamaï.
Moi, à chaque fois que je viens dans la forêt, je sens que c'est l'endroit où nous avons notre histoire, ici. Je me rappelle du mode de vie de nos ancêtres et quelque chose se passe en moi quand je viens. Aller dans la forêt, c'est comme rentrer chez moi.
Il faut se frayer un chemin dans cette forêt primaire. Et Louboun est déjà avec sa sarbacane. Il a passé un petit moment à affûter ses flèches, à les tremper dans le poison. Et il attend qu'un oiseau se présente. Mais vous ne pouvez pas vous empêcher de tirer à la sarbacane.
Et vous savez, cette sarbacane, elle appartenait à mon grand-père. Et je l'utilise encore. C'est comme si je lui rendais hommage, là. Vous savez, s'ils détruisent notre forêt, c'est notre vie qu'ils détruiront. Ce serait une grande souffrance. C'est pour ça que nous avons cartographié cette zone. Et on fera tout pour préserver notre forêt.
Concrètement, comment vous avez fait votre carte ?
Déjà, il faut du matériel, GPS. Mais au-delà de la technologie, c'est surtout grâce au savoir des anciens qui nous ont accompagnés en forêt qu'on a pu la réaliser. Ils nous ont raconté les histoires et nous avons marqué ces informations sur la carte, comme par exemple les toponymes.
Alors vous qui êtes le père de l'aubaine, la première fois que vous l'avez amené à la chasse, ici dans cette forêt primaire, il avait quel âge ?
La première fois que je suis venu ici avec lui, il était vraiment tout petit. Il ne marchait même pas. Il devait avoir 8 mois. On venait régulièrement chasser et je lui racontais des histoires. C'est d'ailleurs ce que nous avons fait pour la carte.
Il y a une très forte volonté des anciens de transmettre le flambeau finalement à la nouvelle génération. Et d'une manière active, l'ancienne génération inclut la nouvelle génération et leur donne des responsabilités. Typiquement, l'exemple de la cartographie, ce sont effectivement des jeunes qui ont été mandatés pour faire le travail de cartographie qui est indispensable aux requêtes des communautés pour revendiquer leurs droits territoriaux. Donc les anciens donnent leur expérience, apportent leur point de vue, et les jeunes, eux, vont vraiment sur le terrain pendant des semaines, même parfois des mois, pour récolter les données indispensables à prouver le fait que ces terres leur appartiennent.
Ce soir, il y a une réunion. Les anciens m'ont demandé d'expliquer à tout le monde ce que représente cette carte, et surtout aux jeunes, parce que la plupart du temps, ils sont absents du village. Ils ne sont là que pendant les vacances scolaires. Il faut leur expliquer l'objectif de cette carte. Ils pourront ainsi soutenir notre lutte pour préserver cette forêt autour de notre village.
Voilà, une réunion entre les anciens et les jeunes s'est organisée ce soir. Les jeunes avec leur portable, qui sont d'ailleurs en train de faire écouter des vieilles chansons pénanes à Wilson, qui est le chef du village.
Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue. Je suis heureux que vous soyez là. Ce soir, nous allons poser des questions aux anciens sur l'histoire de notre terre.
Il est en train d'ailleurs de leur montrer la carte du territoire.
La plupart des sites historiques de notre territoire penant sont marqués sur la carte. On peut les voir d'ailleurs ici.
D'ailleurs, les jeunes, la plupart, ont pris un cahier, ils sont en train de prendre des notes.
Nous n'avons pas réalisé cette carte à partir de suppositions. Nous avons utilisé des instruments de mesure et nous l'avons faite nous-mêmes. Nous sommes ainsi sûrs à 100% du tracé et de nos frontières, par exemple. Et en plus, nous l'avons établi en concertation avec les connaissances des anciens.
La question porte sur le nom de la rivière. Il y a des anciens qui sont en train de répondre.
Le nom inscrit ici sur la carte, c'est Bushutajao. Mais le vrai nom de cet endroit, c'est Pugeshi.
Voilà, on est en train de rectifier. Comme on le voit, c'est grâce au savoir des anciens que l'on peut donner des indications extrêmement précises.
Où on s'est établi en premier ? On a vécu ailleurs avant ?
Avant de devenir sédentaire, on venait de cette zone. On plantait le tapioca au bord de la rivière. Puis nous sommes venus nous installer ici, tous ensemble. C'était à la fin des années 50, sous l'impulsion des missionnaires.
Pourquoi sur la carte, ce point s'appelle le marécage aux crocodiles ?
L'histoire remonte à un homme qui était allé chasser là-bas et il a entendu un bruit très fort dans la forêt. Et il a vu un genre de reptile qui ressemblait à un crocodile, d'où le nom de ce marécage.
Pourquoi Long Lamai porte ce nom?
Je voudrais savoir, on dit que nos ancêtres, ce sont ces hommes qui ont tué le rhinocéros. C'est dans cette zone, hein?
Alors, je vous voyais, vous posiez plein de questions, vous avez tout noté sur un petit cahier. On avait l'impression que c'était très important d'être là ce soir et d'en savoir plus.
Pour moi, cette réunion a été très importante parce qu'on connaissait ces histoires qu'en théorie. Et ce soir, on a pu les restituer sur les cartes. Il y a beaucoup de choses que nous devrions savoir sur notre forêt. Nous, les jeunes, on a la technologie et ce qu'on apprend à l'école. Mais nous n'avons pas ce savoir des anciens.
Pourquoi vous avez besoin d'apprendre de la part des anciens?
Parce que c'est un savoir oral. Il n'y a pas d'écrit, pas d'enregistrement. Si l'on ne saisit pas cette chance maintenant, ce sera trop tard. Il ne nous reste que quelques anciens et nous avons besoin de connaître notre histoire car nous serons les prochains leaders.
Des leaders qui devront affronter de nouveaux défis pour tenter de sauver leur forêt et leur mode de vie, alors que les menaces sont de plus en plus fortes et que certains penants sont même victimes d'écocide. C'est ce que nous découvrirons dans le 8e épisode de Voyage en Terre Indigène, le 20 août prochain. À Djoubaka pour la programmation musicale que vous pouvez retrouver sur franceinter.fr. Sur notre site, vous pourrez aussi prolonger le voyage sur la politique autrement avec la fondation Barbier-Muller et Alban Bensa sur le peuple Kanak en Nouvelle-Calédonie.
Voilà, la France, depuis les débuts de la colonisation, a toujours voulu ménager un espace coutumier. Passer par la coutume, c'est-à-dire faire de la politique en s'appuyant sur les liens historiques que les groupes entretiennent entre eux, par une négociation permanente, par des échanges, des adoptions d'enfants, des mariages, mais aussi des échanges de biens symboliques, de monnaies, de coquillages, le partage d'une même histoire, le rappel du passé, pour ne pas aller jusqu'à la rupture. Donc cette façon de faire de la politique dont la France, des fois, pourrait s'inspirer, si vous voulez.
Voyage en terre indigène. Une série d'Anne Pastor.
Montage, Thomas Lopias et Mariana Baldi. Mixage, Basile Bocquer. Un documentaire réalisé par David Rocher. Merci à Zora Ben-Smiley pour le site internet, Édouard de Pernouade pour les bonus vidéo et Alexandra Carrasco pour les traductions espagnoles.
Cette émission a reçu le soutien de l'agence Terra Andina Pérou et de la fondation BMF.
La semaine prochaine, les peuples menacés. Nous irons en Éthiopie chez les Mercy et en Amazonie chez les Sariakou.
Le voyage continue sur franceinter.fr. Allez, allez, allez.
la canita.